Chali m'était conté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lors de notre dernière émission, nous nous étions interrompus par la fin, ce qui est assez normal, celle de Catherine de Médicis. Avant de la quitter, parce que je sais aussi que vous attendez quel rapport y a-t-il avec Chali. On est quand même à Saint-Germain, là, mais on n'est pas. Je voudrais quand même vous lire un petit passage d'une historienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jeannine Garrison, à propos des régentes. Alors, la régence, vous savez, c'est un moment du gouvernement pendant lequel on confie d'une façon très, très mesurée dans le temps le pouvoir royal à un régent ou une régente, en attendant la plupart du temps que le roi ait atteint une majorité de l'époque qui le juge apte à gouverner le royaume. Donc, remettons-nous un peu dans le contexte à propos de Catherine de Médicis. Henri II, qu'elle aimait beaucoup, qu'il a épousé parce que Catherine de Médicis, elle a des sous. C'est pas la première fois, évidemment, que les fleurs de lys rencontrent des lingots d'or. Et Catherine de Médicis, d'ailleurs, quand on voulait la moquer, on l'appelait la banquière. N'est-ce pas ? On disait pour la reine, oh, c'est la banquière. Et Catherine de Médicis va se retrouver donc régente avec quand même des fils qui ne sont pas encore capables d'assurer le royaume de France. Et ça va durer longtemps. Elle va d'ailleurs les côtoyer dans le gouvernement et ne va pas s'effacer véritablement. On lui reproche, et j'en parlais lors de notre dernière émission, son engagement dans le massacre de la Saint-Barthélemy. Et pourtant, à travers les études qu'on a pu faire, on sait que la responsabilité de cet attentat, terroriste de l'époque, cette responsabilité est partagée. Mais l'unique coupable de ce crime, un crime d'État, que retient la postérité, est et demeure Catherine de Médicis. C'est vrai que c'est une coupable idéale. Pourquoi ? Eh bien d'abord, vous vous rendez compte, dans un pays où c'est la loi salique, c'est-à-dire la loi qui fait que la couronne ne peut passer qu'un homme à un autre homme. Donc on a interdit cette loi salique, ou supposée salique, c'est l'histoire des Français, je vais pas revenir sur cette légende. C'est une légende fabriquée aussi, évidemment, pour favoriser un certain nombre de prétendants. Donc c'est une coupable idéale, disais-je, parce que d'abord c'est une femme qui gouverne. Hein, quelle horreur. Mais déjà, Isabeau de Bavière, auparavant, avait connu les mêmes turpitudes. Elle est étrangère. Ben oui, la plupart du temps, les rois de France, ou les autres rois, épousaient des princesses étrangères. Alors, une étrangère, allons-y, appuyons un petit peu sur cet aspect, n'est-ce pas, pour montrer que là encore, les Italiens n'étaient pas forcément bien accueillis en France au nom d'une certaine forme de xénophobie. Il faut l'appeler comme ça. Cela dit, c'est vrai que petit à petit, ils ont pris beaucoup de pouvoir dans le royaume de France. C'était une épouse délaissée et elle allait au-devant de la scène politique elle avait tenu le royaume pendant peut-être la période la plus noire de notre histoire. Donc la mauvaise conscience collective, parce que la Saint-Barthélemy ne pouvait pas être un événement national. D'ailleurs, on ne fête pas la Saint-Barthélemy, à ce que je sache. D'ailleurs, en France, on ne fait jamais les défaites. Sedan, on n'en parle pas. Il ne s'est rien passé. Il y a des sangliers, il y a une bonne bière, mais il n'y a pas eu de défaite de Napoléon III. La mauvaise conscience collective ne pouvait trouver meilleur bouc émissaire que dans la personne de Catherine de Médicis. Mais plus près de nous, pensez à Marie-Antoinette. La Révolution, c'est bien à cause de Marie-Antoinette, non ? Quand même, il ne faut pas exagérer. Alors, je plaisante, bien sûr. Donc, vous voyez que la position de ces régentes, tout au long de l'histoire de France, a été très difficile. Elles ont été souvent décriées, en tant que femmes et en tant qu'étrangères, comme des usurpatrices, en quelque sorte, et responsables de toutes les mauvaises actions.
Oui, mais même temps, femmes de pouvoir, quand même.
Femmes de pouvoir. Mais moi, je retiendrai une chose. Quand j'étudiais Hippolyte d'Est, et les difficultés que rencontre le royaume de France au moment, évidemment, de ce qu'on a appelé plus tard les guerres de religion, eh bien, Hippolyte d'Est et Michel de l'Hôpital, d'ailleurs, se rend à un prêche protestant Ce qui est, c'est curieux, parce que quand même, elle est là comme étant la garante de, non pas de la Ligue, mais en tous les cas du pouvoir des catholiques. Par curiosité, par volonté aussi, on est là au moment du colloque de Poissy, de trouver justement un accord. Et on soupçonne même à un moment donné, Catherine de Médicis, d'être un petit peu protestante. Le duc d'Albe, n'est-ce pas, qui représente le roi d'Espagne, s'interroge à son sujet. Elle est obligée de lui écrire une lettre en disant « Mais oui, je suis catholique, etc. » Vous voyez que les choses ne sont pas aussi simples. Et que les archives nous livrent parfois, de façon assez récente d'ailleurs, des renseignements tout à fait intéressants. Alors, elle est morte. Elle est morte près de Saint-Germain, vous vous souvenez, hein. Donc c'était pas le château de Saint-Germain-en-Laye, ça n'était pas évidemment Saint-Germain-l'Auxerrois ou l'Auxerrois, c'était justement Julien de Saint-Germain, un religieux, le confesseur d'Henri III, et effectivement la reine est décédée près de Saint-Germain. Et alors, quel rapport avec Chaly? Ben tout simplement, Julien de Saint-Germain, outre le fait d'être le confesseur du roi Henri III, était aussi l'évêque de Césarée, hein, mais va devenir l'abbé de Chaly entre 1586 et 1589. Et c'est lui qui a succédé à Louis d'Est, qu'on a déjà évoqué dans les émissions précédentes. Et si vous venez dans la chapelle royale, qu'on appelle maintenant la chapelle Sainte-Marie, eh bien, vous verrez le blason de Julien de Saint-Germain, et qui nous rappelle évidemment cette aventure tout à fait rocambolesque à propos du décès de la reine ou de la régente. Et je ne m'arrêterai pas là, fidèle à cette tradition de me promener dans la chronologie. On va quitter le XVIe siècle et on va se retrouver au XIXe. Bigre, pourquoi cette entorse à la chronologie? Ben, tout simplement, c'est que la légende de Saint-Germain va perdurer. Cette légende va prendre des formes tout à fait étonnantes et on va trouver tout au long du siècle des Saint-Germains intervenir d'une façon tout à fait étonnante dans l'histoire de France. Sans qu'on sache évidemment qui était ce fameux... Alors, au 18e, il devient un comte. Ça fait mieux. Le comte de Saint-Germain, ce n'est plus un religieux, c'est une personne de la noblesse. Et Gérard de Nerval, qui est quand même notre poète favori ici dans notre région, que les habitants de Crépy connaissent, hein. En tous les cas, Gérard connaissait la prison de Crépy, puisqu'on l'y a conduit, n'est-ce pas? À faute de papier, il a été arrêté par la gendarmerie avant d'être transféré vers Senlis. Par Montépilois, eh bien, il va passer un petit séjour à Crépy. Il n'a pas forcément gardé de mauvais souvenirs. Et Gérard de Nerval, toujours avide, évidemment, de légendes, hein, va nous parler d'un Saint-Germain à son tour. Le comte de Saint-Germain. Alors, c'est un extrait qui est tiré peut-être du livre le plus connu pour nous ici, de Gérard de Nerval, qui s'intitule « Les filles du feu ». Qui est séparé en plusieurs, on pourrait appeler ça des nouvelles, et entre autres, l'une d'elles s'appelle Angélique. D'ailleurs, Angélique apparaît dans un ouvrage antérieur aux Filles du Feu, qui elles sont publiées vers 1853, dans ce qu'on appelle les Faux-Saulniers. Les Faux-Saulniers, pour les gens qui voudraient découvrir Nerval, peut-être, devraient commencer par là, ou par Sylvie, bien sûr, parce qu'on est chez nous. Mais ça a été véritablement le roman constitutif de la production ultérieure de Gérard de Nerval. Alors, dans Angélique, c'est même la lettre 11, Gérard de Nerval va nous parler, eh bien, encore une fois, d'un Saint-Germain, mais là, il n'est pas tout seul. Alors, je confie à André, le lecteur officiel, n'est-ce pas, de cette émission, le soin de nous lire ce petit extrait des Filles du Feu, Angélique.
Quelques années avant la Révolution, le château d'Ermenonville était le rendez-vous des Illuminés qui préparaient silencieusement l'avenir. Dans les soupers célèbres d'Ermenonville, on a vu successivement le comte de Saint-Germain, Mesmer et Cagliostro développant dans des causeries inspirées des idées et des paradoxes dont l'école dite de Genève hérita plus tard. Je crois bien que M. de Robespierre, le fils du fondateur de la loge écossaise d'Arras, tout jeune encore, peut-être encore plus tard Sénancour, Saint-Martin, Dupont de Nemours et Cazotte, vinrent exposer soit dans ce château, soit dans celui de Le Pelletier de Morfontaine, les idées bizarres qui se proposaient, les réformes d'une société vieillie, laquelle, dans ses modes mêmes, avec cette poudre qui donnait au plus jeune front un faux air de la vieillesse, indiquait la nécessité d'une complète transformation. Saint-Germain appartient à une époque antérieure, mais il est venu là. C'est lui qui avait fait voir à Louis XV, dans un miroir d'acier, son petit-fils sans tête, comme Nostradamus, 1503-1566, avait fait voir à Marie Médicis, 1575-1662, il avait fait voir les rois de sa race, dont le quatrième était également décapité.
Voilà, alors là, on est dans le roman, hein, et Gernard de Nerval va modifier la chronologie, donc je peux me permettre de le faire. Et si j'ai indiqué ainsi, et si André a pu nous indiquer les dates de naissance et de mort de Nostradamus, c'est pour montrer tout simplement que ça ne pouvait pas, au niveau de la prédiction, coller en quelque sorte avec Catherine de Médicis. Alors, les rois de sa race, dont le quatrième était également décapité, oui. Vous avez compris de qui il s'agissait. Donc là, Nerval fait un mélange, hein, entre notre fameux Saint-Germain, qui traverse les siècles, et je vous prouverai que c'est loin d'être anodin, et il va donc réunir des personnes intéressantes qui vont se retrouver un peu plus tard, penser à Le Pelletier, penser à un certain Robespierre quand même, ou à Sénancour, notre écrivain qui va résider très longtemps à Fontenchély et Chély, etc. Et tous ces gens-là, donc, il va les mélanger dans une espèce d'association qui va se créer. Alors, il ne faut pas confondre. Hein. D'un côté, on va avoir les loges maçonniques, donc les francs-maçons. Mm-hmm. Hein, on aura l'occasion d'en reparler parce que, là encore, un des abbés de Chély va devenir un des premiers de la Grande Loge de France. Hein, un premier fondateur de la Grande Loge de France. Et de l'autre côté, ceux qu'on appelle les Illuminés. C'est une... Je peux dire une secte, une association. Ça serait. C'est difficile à caractériser. C'est une association en forme de secte, oui. Qui est d'origine germanique d'ailleurs, qui va réunir Weishaupt, etc., un certain nombre de penseurs. Et tout ce beau monde se réfléchit tout simplement sur la modification à apporter à la société. Mm-hmm. Non pas une modification violente telle qu'elle se déroule en France, mais en quelque sorte, ces deux associations, je les appelais comme ça par facilité, vont faire des propositions pour revenir un petit peu sur cette monarchie à bout de souffle qui, évidemment, va connaître le sort que vous connaissez. Alors, pour vous dire à quel point la légende perdure, à un moment donné, à propos de Saint-Germain, tout le monde s'intéressait. C'est qui ce comte de Saint-Germain qui existait déjà il y a plusieurs siècles, et comme nous dit Nerval, qui a eu une importance assez grande au moment de Catherine de Médicis. Tout à l'heure, c'était Marie de Médicis, hein, pour pas qu'on s'y trompe. Vous voyez la nuance chronologique. Donc, Nerval nous cite un petit passage intéressant. Oh, je vais le confier aussi à André, où on demande au valet de Saint-Germain. Qui est votre maître ? À ce propos, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un tas de volumes qui ont été écrits, un tas d'ouvrages écrits sur Saint-Germain, qui ont trouvé des origines très diverses, jusqu'à la famille Radelsky. Vous connaissez la marche de Radelsky ?
Ah oui.
Vous voyez ?
Oui.
Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails des origines de Saint-Germain. Et Nerval nous dit, à propos de Saint-Germain et du fait qu'il ait vécu pendant des siècles...
Au XVIIIe siècle... Le comte de Saint-Germain prétendait avoir gardé le souvenir d'une foule d'existences antérieures et racontait ses diverses aventures depuis le commencement du monde. On questionnait un jour son domestique sur le fait que le comte venait de relater à table et qui se rapportait à l'époque de César. Ce dernier répondit au curieux : « Vous m'excuserez, messieurs, je ne suis au service de monsieur le comte que depuis 300 ans. »
Voilà, donc vous voyez cette légende, hein, je ne l'avais pas citée, mais j'aurais dû le faire, hein, depuis le commencement du monde, Saint-Germain, il ne faut pas exagérer, hein, c'est quelqu'un qui va perdurer tout au long de notre histoire, au moins européenne. et puis Nerval ne manque pas d'humour, évidemment, pour faire cette citation, qui bien sûr est erronée, hein, mais oui. qui est poétique, on va dire, et qui renforce cette idée qu'on avait de Saint-Germain. Alors je ne sais pas si dans les années à venir, on va voir réapparaître le fantôme de Saint-Germain, mais je peux vous dire qu'il y a encore des gens qui s'intéressent, pour essayer de retrouver les ouvrages, parce que ce fameux Saint-Germain aurait écrit un ouvrage, on l'aurait retrouvé à la bibliothèque municipale de Troyes, enfin bref. Donc on continue toujours à essayer d'éclaircir ce mystère de Saint-Germain.
Allez donc savoir s'il ne continue pas avec le Paris Saint-Germain.
Bien, quittons un petit peu Saint-Germain, mais restons quand même avec les abbés de Chaly, ceux qu'on appelle les abbés commendataires. Alors, je sais que tout le monde est passionné d'orthographe. Là, il ne s'agit pas de passer commande, hein. C'est de diriger. C-O-2-M-E-N-D-A-T-A-I-R-E-S. Donc, on va évoquer les abbés commendataires au XVIIe siècle. Deux difficultés. La première, c'est que on supposait une période très brillante, à Chaly en tous les cas. C'est la période, rappelez-vous quand même, du règne de Louis XIV pour la seconde partie. C'est pas une période très brillante. Et puis on a un deuxième problème qui est aussi majeur, c'est qu'on n'a pas d'archives. Ou plutôt, parfois on en retrouve. Je peux vous conter une aventure assez bizarre, puisque avant l'an 2000, à l'époque c'était monsieur Vautier qui était conservateur de Chaly, il a trouvé en vente publique un certain nombre de manuscrits qui nous racontent justement la nomination de ces évêques au XVIIe siècle. Alors là, on peut se poser la question, il s'agit de la liquidation d'un château, donc on vide les réserves, on vide la bibliothèque et on met en vente. Le problème demeure quand même, c'est de savoir comment ces archives sont-elles arrivées dans ce château, qui n'est pas nommé lors de la vente, donc je ne suis pas capable de vous le dire, il s'appelle le château de X. Et donc, grâce à l'initiative de ce conservateur de Chaly, on a pu récupérer des documents importants qui nous montrent un peu la façon dont étaient nommés ces abbés commendataires. Je dois dire que ce n'est pas d'une rare élégance, vous allez voir pourquoi. En général, on reste... Après Louis d'Est, qui était le neveu d'eux, etc., on reste dans le même type de transition, à savoir que, comme je le disais l'avant-dernière fois, Tonton va bientôt mourir, et il donne évidemment l'abbatiat à son neveu. C'est ce qu'on appelle en français neveu, hein, népotisme. Voilà. Eh bien, alors que c'est interdit par les bulles du pape, hein. Eh bien, ça va continuer. Ça va continuer tout au long du 6e, du 17e et même au 18e. Et puis, la deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est comment ces archives ont-elles disparu ? Parce qu'elles devaient se trouver, au moment de la Révolution, dans l'abbaye de Chaly. Il n'y avait pas lieu d'être dans telle ou telle résidence privée ou autre. On n'en sait rien, car on ne sait pas exactement comment s'est faite cette dispersion des archives. Pour les chartes, on connaît à peu près l'endroit où elles se trouvent en grande partie, entre Beauvais, Paris, enfin, etc. Mais pour le reste, dans ces grandes familles aussi, les archives ne sont pas forcément conservées. D'ailleurs, est-ce que nous-mêmes, nous conservons nos propres archives ? Je ne suis pas sûr qu'on ait un soin tout à fait extraordinaire à conserver les traces de notre vie. Enfin bref, c'est une difficulté que l'historien rencontre quand il essaye d'évoquer cette période. Alors on a tendance à dire il ne s'est pas passé grand-chose. Forcément, on n'a rien. Mais ça serait un tort, évidemment. Il s'est sûrement passé des choses intéressantes. Et entre autres, avec cette découverte de M. Gautier, on va voir comment le successeur de Saint-Germain, nous y sommes encore quand même, donc Julien Saint-Germain disparaît, et on va nommer un personnage tout à fait bizarre, intéressant, qui s'appelle Abel de Montliard. Alors déjà, première difficulté, Montliard, ce n'est pas tout à fait son nom, parce qu'il s'appelait Montléard. Pendant sa vie, on a changé son nom patronymique, peut-être au niveau du son, simplement. À force de dire Montliard, c'est devenu Montliard. Donc là aussi, quand on fait des recherches, il faut chercher des deux côtés. Donc cet Abel de Montliard, je vais quand même vous donner le nom de ses parents. Son père s'appelait Antoine de Rumont, mais sa mère s'appelait Marie de Harlay. Marie de Harlay, c'est la fille de Christophe de Harlay, qui était président à Mortier du Parlement. Et c'est la sœur d'Achille de Harlay. Et si je parle d'Achille de Harlay, c'est que c'est un des ministres les plus importants du règne d'Henri IV. Donc on est là encore une fois à Chély, complètement lié avec l'histoire royale. N'oubliez pas non plus que dès sa fondation, Chély se trouve au cœur du domaine royal médiéval. Donc, est-ce un hasard? Sur proposition d'Henri IV, avec l'accord du pape Clément VIII, on va nommer cet Abel de Montliard comme abbé de Chély sur la bulle. Une bulle, vous savez, c'est le nom qu'on donne à un édit du pape. C'est pas parce que le pape fait des bulles, non. On appelle une bulle, tout simplement, c'est que le sceau du pape est sphérique, à la forme d'une boule, et donc va donner son nom à cet édit. Et entre autres, cette bulle est très précise, on dit qu'elle est fiat ut petitur, c'est-à-dire qu'elle est signée par le pape lui-même. Ce n'est pas le secrétariat du pape, ce n'est pas l'administration, ça veut dire évidemment l'importance de cette nomination. Donc, par la suite du décès de notre fameux abbé Julien de Saint-Germain, confesseur d'Henri III, je laisse là l'histoire. Il va être nommé par le pape en accord avec le roi, mais ça va nous rappeler ce que nous avons déjà vu ensemble. C'est qu'en 1516, alors que... Alors, on part en arrière, là. 1516. 1515 Marignan, voilà. Voilà au moins un barreau à notre échelle chronologique. Donc 1516, François Ier est en Italie et va signer un accord extrêmement important avec le pape, qu'on appelle le Concordat de Bologne, la ville italienne. Et par ce concordat, le roi de France, en accord avec le pape, va désigner tous les grands postes de l'Église, toutes les grandes titulatures ecclésiastiques. Il va nommer tous les abbés, il va nommer tous les évêques, il va nommer quasiment tous les archevêques. Et donc, il est précisé dans la bulle papale donc, de 1594 qu'il s'agit bien d'une proposition conjointe entre Henri IV et le pape Clément VIII, qui va donner en quelque sorte la commande de Chély à Abel de Montliard. Et il y a des obligations, évidemment. Le nouvel abbé doit respecter les décisions et les sentences à l'égard des hérétiques et des schismatiques. N'oubliez pas que nous sommes dans cette période très difficile, globalement des guerres de religion, et des autres rebelles, on ne sait jamais des fois qu'ils l'entraînent. Et ne pas aliéner ni engager les possessions de sa manse. Sa manse, c'est-à-dire la propriété qu'il a sur les revenus de l'abbaye. Et ça, retenez bien, parce que au XVIIIe siècle, il y a un abbé qui ne va pas du tout respecter cette parole et qui va être à l'origine, en grande partie, de la difficulté majeure que va rencontrer l'abbé. Mais finalement, ça n'est qu'en 1600 que l'abbé va entrer en possession de la commande. Alors là aussi, il y a des passages très, très curieux, qui sont pleins de silence, parce que s'est-il passé pendant ces années? Qui était abbé? On n'en sait rien. Alors, quand on n'en sait rien, on marque vacances. C'est-à-dire que le siège est vacant, en quelque sorte. Et ce n'est qu'officiellement, comme il s'est senti, qu'Abel de Montliard prend possession de la commande. Alors, comme ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a toute une cérémonie. Alors, il y a une entrée solennelle dans l'église de Chély. Il y a l'aspersion d'eau bénite, le baiser du grand autel, le toucher du missel. Et puis, on sonne les cloches. Et on installe sur les stalles supérieures à droite, donc à gauche de l'autel, si vous regardez les moines, on va lire à voix haute toutes les bulles et les lettres de collation, c'est-à-dire qui donnent en quelque sorte l'abbaye à Chély, en présence de tous les moines réunis dans le chapitre, et de nouveau qui se termine avec le son des cloches. Vous voyez, et ce rituel à chaque fois est le même. Donc, il y a toute une cérémonie qui est engagée. Alors, vous allez me dire, mais l'abbé est là. Bah, pas toujours. On verra que les successeurs, ils vont désigner des procureurs qui les remplacent. Ils ne se déplacent même plus. Tout ce qui les intéresse, il faut bien le dire, c'est le revenu de l'abbaye. C'est l'argent qui vont toucher de l'habit. Et quand, quand à Chali, on s'aperçoit qu'en gros, je peux dire que les abbés commendataires détournaient, quand même quelque part, mais bien que ce soit officiel, mais détournaient les deux tiers des bénéfices de l'habit.
Ah oui, quand même.
C'est vraiment la portion congrue, c'est qu'à de le dire, qui restait aux moines. Donc cette prise de possession qu'on pensait finalement définitive va être mise en cause parce qu'on va soupçonner cet abbé de népotisme. Et on va le soupçonner à juste raison, parce que c'est son neveu qui va lui succéder. On va trouver ce fameux Achille de Harlay que j'évoquais tout à l'heure, qui va être nommé à son tour abbé en commande de Chali, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il va rester un peu de temps, et puis il va subir des pressions importantes d'un certain Louis III de Lorraine, la famille des Guises, etc., qui se dit que ben, Chali, c'est vraiment intéressant. Et il va obliger notre Achille de Harlay à échanger l'abbaye de Chali contre une abbaye beaucoup moins importante qui se trouve à Chalon, Saint-Urbain de Chalon. Mais quand même, il reste correct, puisque à travers cet échange, il offre, n'est-ce pas, à l'ex-abbé de Chali la somme annuelle de 7000 livres en compensation de ce qu'il perd sur les revenus de l'abbaye. Et puis, on va continuer comme cela, évidemment, dans la succession. Alors, le Louis II de Lorraine va décéder en 1621. Son abbatiat se termine à ce moment-là. Donc, alors, c'est pas son neveu, là. C'est son fils naturel. Parce qu'il faut pas oublier que les évêques, les cardinaux, pouvaient se marier, avoir des enfants. Hein. D'ailleurs, il y a un moment donné, dans une bulle, il est marqué que tel abbé continuera à recevoir les bénéfices même s'il se marie et qu'il a des enfants.
Ah ben
donc c'est tout à fait dans la norme, en quelque sorte, ce qui n'est pas sans nous surprendre, nous, maintenant. Mais encore une fois, il faut rester dans son temps. Et ce fameux successeur, donc, c'est le fils naturel de Louis III de Lorraine, qui avait épousé une ex d'Henri IV, l'ex-maîtresse d'Henri IV, qui s'appelle Charlotte des Essarts, donc qui va lui succéder. Et puis, à un moment donné, Chali n'intéresse pas trop. Alors, il va échanger contre l'évêché de Condom. Ah. Oui, on n'est plus dans la même région, là. Avec un certain Jean XI d'Estrade, qui, à son tour, avec cette permutation, en quelque sorte, devient abbé de Chali. Mais ça ne va pas durer. Je ne sais pas s'il ne se plaît pas chez nous. En tous les cas, il va échanger de nouveau avec un personnage important qu'on évoquera la prochaine fois, qui s'appelle Jules-Paul de Lyonne, l'abbatiat de Chali. Vous voyez que les conditions de nomination, d'échange, au sens propre du terme, c'est devenu une affaire commerciale. On achète, on vend. Hein. On est dans un domaine non pas du troc, mais de spéculation, quoi, tout simplement. Et bien sûr, tout ça en relation avec le pouvoir. On ne fait pas n'importe quoi.
C'était « Si Chali m'était compté » avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Chali.